7h42 sur France Culture, tandis que s'installe notre invitée Jane Birkin. Bonjour Jane Birkin.
Bonjour.
Vous êtes un peu enrhumée, alors vous avez toutes sortes de médicaments, et puis alors je dois vous dire que vous arrivez en pleine crise entre Catherine Dutu et moi, parce qu'elle essaye de me piquer votre livre, Monkey Diaries. Que vous publiez chez Fayard, alors elle me fait des petits mots, je vous dirai pas ces petits mots parce que c'est tout à fait inopportun. En revanche, je pourrais lire un extrait de ce Monkey Diaries. Monkey, c'est ce singe, vous expliquez que ce singe en peluche habillé en jockey vous a été offert par votre oncle, gagné dans une tombola, et vous lui avez écrit depuis l'âge de 11 ans à ce singe. C'est le premier tome de votre journal. Il va jusqu'en 1982. Pourquoi avoir décidé de publier ce journal, Jane Birkin?
Parce que, en fait, quand j'avais été malade, ma meilleure copine, Gabrielle, a regardé dans un mal où j'avais, c'est pas des journaux bien entretenus, c'était des cahiers d'enfants, ou des colliers plutôt. Et elle a retranscrit de mon écriture, et j'étais dyslexique, donc une façon de manquer ne s'écrit pas comme ça déjà. Elle a transcrit le
oui,
tout.
C'est avec un U.
Là. Oui. Et j'ai regardé tout ça. Ça me semblait que c'était une autre personne vraiment. Ça m'avait un petit peu surpris, beaucoup déçu aussi. Je m'aimais pas trop. Je trouvais que j'étais pas du tout un enfant courageux comme j'aurais voulu être, que mon frère et ma sœur étaient mille fois plus culottés que moi. Mais bon, je regardais des anecdotes avec ça. Je trouvais certaines absolument charmantes quand ils recherchaient les personnes qui les a cachées pendant la guerre, les trucs que j'avais absolument complètement oubliés. Et puis, il fallait les traduire en français, ce qui est une grosse galère parce que le langage français est deux fois plus long que l'anglais, et l'anglais est plus téléphonique. Enfin, c'est comme des télégrammes. Plus en plus, je suis pas un écrivain, donc c'était vraiment comme on parle. Et j'ai fait une première traduction avec quelqu'un qui était beaucoup trop un professeur formidable d'ailleurs. Je l'aimais beaucoup. Mais ça me ressemblait pas et ça collait pas du tout avec les autres morceaux que j'avais écrits en français comme je parle. Donc j'ai remis tout ça et j'ai retraduit le tout de nouveau en français comme moi. Et puis panique, je ne voulais pas que ça sorte. Et pendant 6 mois, j'ai dit à l'éditrice Sophie que c'était pas possible de me montrer ainsi. C'était voilà, tout le monde allait me connaître tous mes mauvais côtés, parce que j'ai pas triché, j'ai pas enlevé les mauvaises choses sur moi du tout. J'ai coupé des choses parfois quand c'était blessant pour les autres, mais certainement pas pour moi. Et puis 6 mois sont passés, mon frère qui l'avait lu en anglais et qui est un grand écrivain, lui par contre, il est en train d'écrire Napoléon pour Netflix, c'était un grand écrivain. Lui, il a dit, oh, mais c'est charmant, mais t'es folle, ça te ressemble tellement. Donc, barrettinage de mon frère et Gabriel. Et puis, je me suis dit, bon, allez hop, même si je suis la personne que personnellement, je ne vivrai pas avec et que tous mes failles sont largement démontrées. Mais peut-être ça réconforterait une fille qui se trouve pas jolie, qui est angoissée de perdre les garçons qu'elle trouve tellement attractifs et qu'elle mérite pas. Et voilà.
On a trouvé, en tout cas, ce livre merveilleux, extrêmement charmant, avec beaucoup de poésie, de tristesse, peut-être aussi un peu Jane Birkin.
Je pense pas la force des choses, c'est assez injuste. Les journaux intimes, on les écrit quand on est malheureux. Parce que quand on est heureux, on n'a franchement pas le temps. Et c'est votre confident, en fait, en moment où vous pouvez pas parler à quelqu'un d'autre, de peur qu'il serait encore plus déçu en vous, s'il savait vraiment ce qui trottait dans votre tête. Ou alors, par la force des choses, en internat, où il n'y a vraiment personne à qui parler. Donc je parlais en effet à mon singe, tout comme je lui ai parlé vraiment jusqu'au mort de singe. Il partageait mon lit et celle des garçons avec lesquels j'étais. Et aussi, ses vêtements étaient comme magiques pour mes propres enfants. Ça comptait uniquement si c'était tricoté à l'époque de ma grand-mère. Et aucun voyage n'était concevable sans le singe. Les pantalons du singe sont dans la attaché caisse de singe, avec un trou pour sa queue, et son petit machin pour l'écolier est avec mes enfants, avec ses carnets d'école, parce que je faisais croire à ma pauvre sœur qu'il allait à l'école et qu'il mangeait et tout. Et voilà, ce personnage a été mon confident. Et le journal intime est une tradition anglaise sans aucune prétention qu'on oblige, quand on est petit, de le faire. Pour s'exprimer. Et plus tard, ça, beaucoup, beaucoup d'anglaises. Moi, j'ai dit à Kate et Charlotte et Lou de absolument tenir leur journal, qu'ils n'en reviendraient pas plus tard de voir les misères qui semblaient si énormes, étaient vraiment rien du tout.
Vous confiez à ce journal à peu près tout, Jane Birkin, d'après ce que l'on lit aujourd'hui dans Mooncake Diaries, et vous confiez notamment à ce journal que vous avez peu de confidents, que vous n'avez pas d'amis. En tout cas, vous le dites à un moment, un sentiment de solitude, Jane Birkin.
À l'internat, oui, absolument. Mais je pense que pour être juste, ce n'est pas la faute de l'internat. C'est moi qui voulais y aller d'abord, donc je n'ai pas avoué que c'était une erreur à mes parents, parce que c'était ma décision. Et donc, comme on dit en anglais, vous avez fait votre lit, il faut coucher dedans. Donc, en effet, à l'école, il faut rentrer dans le norme des choses. Et je n'étais pas dans les normes des choses. Je n'avais développé en rien du tout, qui fait que c'était une moquerie constante des autres filles, de le fait que, quand on prend sa douche, par exemple, il y avait des parois, mais les filles pouvaient regarder au-dessus des parois. Et puis, vous avez le droit de deux choses que vous pouvez emmener dans votre bain, comme une éponge et un gant de toilette, je suppose, ou un savon. Mais ça cachait pas ce que vous n'avez pas. Donc, au-dessus de parois, les filles disaient « Ah, toujours rien, 99, qui était mon numéro, toujours rien. » Et j'avais pas de sein. Et je n'avais pas des trucs à mettre dans les corbeilles que je voyais les autres filles faire. Tout ce mystère, c'était... Ils mettaient des trucs sur leurs jambes pour enlever les poils, qui puaient l'œuf, qui s'appelait vite. Et je me demandais qu'est-ce qu'ils fabriquaient. J'étais hors du coup. Alors, mon frère, qui avait un interne à Harrow, qui est très célèbre pour avoir battu tous les garçons, par les autres garçons en plus, lui, il s'en foutait pas mal de tout ça parce qu'il voulait appartenir à aucun clan. Et il s'abritait en dessous les voitures pour lire, plutôt que de courir vers la chapelle. Donc, il recevait des très mauvaises notes pour comportement. Et puis, il était battu toutes les semaines. Mais il a dit qu'on ne pouvait pas vraiment avoir une grande prise sur lui parce qu'il ne voulait pas de leur club. Il voulait faire partir de rien. Il était un complexe solitaire. Et moi, malheureusement, j'avais le défaut de beaucoup de filles à cet âge-là qui veut faire partie des groupes de filles, qui a envie de partager les choses. Donc du coup, j'ai joué le martyr et j'allais même à le prep, qui était une sorte des devoirs pour les juniors, mais pour les seniors aussi. Et je m'indulgeais dans mon journal intime, pleurant sur les pages, avec une certaine indulgence, oui, je trouve.
Mais vous étiez entouré de gens que vous décrivez comme étant absolument écrasants. Votre père est un héros de la Seconde Guerre mondiale. Il a, malgré un certain nombre de problèmes de santé, décidé de prendre la mer pour faire des allers-retours entre la France et l'Angleterre. Il a notamment fait passer un certain François Mitterrand dans son bateau. Votre marraine est la fille de Winston Churchill. Il y a d'ailleurs, dans une note en bas de page, vous racontez la manière dont vous vous souvenez en 1965 du dernier anniversaire de Winston Churchill, de la manière dont les grues sur la Tamise se sont abaissées, ont baissé leurs têtes les unes après les autres lorsque Churchill est mort. Vous êtes né donc dans un milieu avec des gens immenses. Est-ce que ça n'explique pas aussi un peu cette manière que vous avez de vous dénigrer qui est constante dans ce journal?
Je pense que c'est absolument que c'est une raison de grande crainte de les décevoir. Et ma mère, qui était actrice phénoménale, magnifique, brune et ressemblant à Vivien Leigh, une très grande beauté de son époque et était célèbre pour l'être. Je pense que si j'avais resté en Angleterre et si ça avait marché avec mon premier mari, John Barry, je serais toujours là en coulant ses bains et lui réchauffant sa soupe de tortue. C'est un bonheur pour moi qu'il est parti parce que du coup, j'ai pris les rivages françaises où je me sentais d'une liberté totale. Je pensais que mes parents ne voyaient plus rien de ce que je faisais, que je parlais un langage qu'ils ne comprenaient pas, et que j'étais en secret absolu de faire tout ce que je voulais. C'était ma liberté totale, c'était la France. Et quand je pense à tous ces magazines à poil que j'ai fait avec Serge comme metteur en scène, je pense qu'aussi n'importe quel psy dirait, eh bien, vu l'internat et les moqueries, quel tralalaire pour moi d'être aimé et désiré par un type qui m'a dit qu'il avait dessiné une fille comme moi, c'est-à-dire son sein, et qui l'a inspiré pour faire certaines chansons et certaines films même. Donc, c'est vraiment la France et la liberté de la France qui m'a permis d'être moi. Rester en Angleterre, je ne sais pas du tout ce que je serais devenue. Rien du tout, probablement.
Mais vos parents étaient aussi parfaits que vous le dites,
oui.
Jet Birkin?
Oh, ils étaient parfaits. On ne pouvait pas avoir vraiment deux êtres plus divines. Je crois que j'aimais mon père. Enfin, la tragédie de sa mort, qui était trois jours après Serge, mon monde à moi a collapsé complètement parce qu'il m'aimait malgré tout. Et quand je disais « Papa, j'ai fait des fautes », il disait « Oh no, not you, you can do no wrong ». Et je disais « Mais papa, j'ai fait du mal, j'ai fait du tort ». Et ça explique peut-être aussi que j'étais aimée par lui et plus tard par Serge, peu importe ce que je faisais, ce qui est assez terrifiant, parce que désormais, vous serez jugé comme tout le monde. Et j'avais leur tendresse, leur affection, leur dévotion, toute ma vie. C'était une chance dingue, mais mon père était pour moi la perfection. Et dans ce qu'il faisait aussi, parce qu'il était... probation officer pour que les garçons ne vont pas en prison. Il était stoïque et courageux pendant toutes ses interventions. On riait ensemble, ce qui était la meilleure chose du monde, avec P.G. Woodhouse et Dickens que je lui lisais tous les soirs. C'était une dévotion. Ma mère était beaucoup plus indépendante, beaucoup plus intellectuelle aussi. Elle connaissait toutes les pièces de théâtre dans lesquelles elle jouait, mais tout Shakespeare, tout, elle était un gros cerveau. Et elle a sacrifié sa vie pour être avec mon père, qui était d'une jalousie rare, qui l'a embarqué dans une ferme juste un peu trop loin pour qu'elle puisse jouer avec ses acteurs, et juste un peu trop loin pour le garder juste pour lui.
La jalousie et le jeu avec le désir, c'est aussi ce que vous racontez, et notamment et tout d'abord avec votre premier mariage. Je vais lire quelques phrases tirées de votre journal Jane Birkin. Il est beaucoup plus vieux que moi, c'est merveilleux, il a 32 ans et moi 18, et il est tellement gentil avec moi. Je boude un peu parfois parce que je l'aime tant, je ne peux pas le voir assez toute la journée, je suis impatiente de le voir. C'est donc votre mariage avec John Barry. Pardon, il est compositeur, il est très connu lorsque vous l'épousez, et disons que c'est une union assez malheureuse.
C'était une grande erreur. Et tout le monde l'a dit à mes parents. Carol Reed, qui a fait Le Troisième Homme, qui était par mariage un cousin de mon père, qui connaissait très bien le monde du cinéma, du coup. Donc, il savait que John Barry était déjà marié une fois avec un enfant, qu'il a eu un enfant avec la fille au père, oula, et la Suédoise, que c'était absolument fatal que cet enfant qui sortait de l'internat tombe pour lui, parce qu'il s'était... très grand séducteur, Shirley Bassey, enfin tous les gens, Goldfinger, c'était lui, tous les films de James Bond, c'était lui, mais aussi les films comme Le Poursuite Impitoyable avec Brando, il avait gagné 2 Oscars à la naissance de ma fille Kate, il était toujours en train d'écrire et de demander et désirer devant la Philharmonique anglaise, et moi je l'attendais le soir, et moi j'avais rien à dire pour moi-même. J'avais un peu espéré, peut-être comme il était beaucoup plus âgé que moi, que peut-être il m'apprendrait les choses. Il m'a appris Rostropovitch, il m'a emmené pour le Moscow Radio Orchestra pour écouter Prokofiev. C'est grâce à lui que j'aimais Gustav Mahler, à qui il ressemblait à deux gouttes d'eau. Mais il n'avait absolument aucune patience avec cette femme-enfant qui était là, hystérique, griffant mes jambes, jettant les œufs dans l'évier. Un vrai cauchemar pour lui quand il rentre, quand j'y pense. Et puis qu'il
sanglote. Il rentrait pas souvent, hein, quand même.
Non, mais quand il rentre, il veut juste dormir. Et moi, je sanglotais à un tel point que je l'empêchais de dormir. Il me foutait dans une autre chambre en disant que je faisais trop de bruit. Et tout ce que je voulais, c'est qu'il mette la main sur moi et qu'il dise, voilà, tout le monde fait les erreurs, tout le monde... Je t'aime, c'est pas grave que t'es pas belle, c'est pas grave que... Non, mais il me le disait pas. Mais ça doit être un truc de moi aussi, parce que bien des années plus tard, quand je vivais avec Jacques Doyon, j'ai écrit un film qui s'appelait « Oh pardon, tu dormais » sur un homme qui dort et une femme à ses côtés qui n'en peut plus de ces nuits silencieuses où, s'il avait mis la main... et dit qu'elle était jolie, qu'elle pouvait se reposer et dormir, il n'aurait pas eu de scénario. C'est donc dans moi aussi, et cette constante envie de dialogue.
On poursuit ce dialogue dans quelques minutes. Jane Birkin, Mooncake Diaries, c'est votre journal, le premier tome de ce journal. Il va jusqu'en 1982, vous le publiez chez Fayard. On va continuer à évoquer la manière dont vous racontez votre cache-cache avec la passion, avec Serge Gainsbourg, la manière dont... vous nouez, dénouez cette relation avec lui, la place de la musique, du cinéma également dans votre vie. On se retrouve donc dans quelques instants. Il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil. Nous retrouvons également notre invitée Jane Birkin qui publie Mooncake Diaries chez Fayard. C'est une vraie européenne. D'ailleurs, on va la faire réagir, Jane Birkin, à ce que Frédéric XVI vient de dire et notamment au Brexit, puisque cela... concerne directement cette Angleterre que vous dépeignez dans votre journal, cette Angleterre traditionnelle. Est-ce que vous souhaitez la voir s'éloigner de l'Europe ?
Oh non, ça a catastrophé ma sœur, mon frère, évidemment, et leurs enfants qui étaient tellement habitués de voyager, de se sentir européenne, justement. Alors, en fait, en Angleterre, il y a eu un tel... Les journalistes sont terriblement coupables d'avoir monté sur beaucoup de mensonges, d'ailleurs, cet effroi contre les immigrants potentiels, de faire croire aux pêcheurs anglais que leur poisson était niqué par tout le monde, qu'ils allaient gagner en quittant l'Europe, qu'ils retrouveront, eux qui avaient un rude travail, leur territoire aquatique, comme dans le bon vieux temps. Et en fait, maintenant, tout le monde dit, mais tout ça, c'était les mensonges. Finalement, les chiffres n'étaient pas corrects. C'était pas du tout le faute de l'Europe, ceci, cela. Personne n'a mentionné non plus les énormes sommes données pour l'agriculture qui venaient de l'Europe. Enfin, maintenant, c'est terrible parce que les gens disent, est-ce qu'on a le droit de revoter? Et ils sont comme tapés sur les doigts en disant, ben, il fallait mieux comprendre les règlements. Mais c'est ça, il me semble, tout le problème d'avoir des... Comment ça s'appelle quand tout le monde vote? Des...
Référendums.
Yes.
Frédéric Saïs.
Précisément, vous-même, en tant que citoyenne, vous seriez favorable à ce qu'un nouveau vote soit organisé. On voit bien le danger de ça. Ça veut dire que la souveraineté populaire peut être bafouée jusqu'à ce que la réponse soit la bonne, entre guillemets.
Oui, je sais, we do not revote. J'étais sur un jury où l'homme a dit ça. Il nous trouvait bien enfantiles. Franchement, je n'ai pas de, si c'était une écrasante majorité qui était tout d'un coup pour rester en Europe, ça serait génial. Si ça va être médiocre, je ne sais pas. Franchement, moi, ma tristesse, c'était pour Angela Merkel. Parce que pour moi, elle était une héroïne moderne. Sa manière d'avoir accueilli les immigrants avait effacé toute l'histoire mauvaise que personnellement, à mon âge, j'avais à cause de la dernière guerre. Cet accueil intelligent d'avoir utilisé énormément d'argent pour que les gens s'intègrent vraiment, c'est-à-dire d'apprendre l'allemand, même d'avoir des passes de cinéma dans le biennale gratuitement, de vraiment être considérés comme des personnes qui vont rester très longtemps. Pas juste allez hop et on vous bouge, un peu le théorème de Calais. Non, non, c'était une vraie intégration qui coûtait très très cher. Et je pensais que les gens enlèveraient leur chapeau pour ça. Ce qui montre que tout est un problème peut-être d'équation et que malgré le fait que leur argent va terriblement bien, c'est incompréhensible. Je la trouve, il y a un livre formidable sur elle par une journaliste de Le Monde.
Marion Van Rentegem.
Yes, formidable, formidable. Pour moi, elle était une héroïne moderne.
C'est par amour pour Gainsbourg que vous êtes devenue française, Jane Birkin, que vous avez décidé d'habiter de ce côté-ci de la Manche.
Oui, c'est-à-dire, Serge, mais par la suite Jacques Doyon, Olivier Roland, les Français en général, je ne peux pas vraiment imaginer de retourner. Je suis ici quand même depuis 53 ans, c'est énorme quand même. Et je me sens tellement bien avec les Français qui m'ont accueilli, d'où l'intérêt d'être accueillie vraiment aussi chiquement que j'étais. J'étais un peu mignonne, j'étais anglaise, c'était pas vraiment la même chose que des immigrés qui arrivent, c'est sûr. Mais ça a été tellement tendre, tellement gentil, tellement drôle, que finalement, un peu comme ma fille Kate, on s'est dit, elle, irlandaise et anglaise, qu'on était prête à mourir pour la France. Et ça, c'était
ce que votre père a fait.
Ce que mon père a fait.
Il n'est pas mort pour la France, mais il aurait pu mourir. Il et en tout cas, c'était un héros.
Mais il adorait les Bretons. Il faut voir leur courage. Il faut voir leur courage de cacher les aviateurs anglais qui étaient beaucoup plus grands que les Français. Physiquement, ils avaient une tête de plus. Et en plus, ils fumaient leur clope à l'extérieur, comme les aviateurs un peu chics, les Français avec la main recourbée. Il fallait les faire plier vers les vélos avec une jeune fille qui était dans la résistance pour prendre les plages la nuit avec les passes qui disaient surmuets pour qu'ils disent pas, pour qu'ils trahissent pas par leur manque de français. Ces Français-là ont caché les gens pendant un mois dans leur grenier avec toute l'horreur des Allemands. Une chose, mais aussi leurs voisins qui comptaient les coquilles d'œufs, combien de personnes vous cachez dans... Enfin, c'est une terreur de tous les jours sans aucune possibilité d'imaginer vraiment réalistiquement la victoire. Je trouve ça extraordinaire, absolument extraordinaire. Les bateaux en Finistère étaient en dessous de la démarcation de l'eau, tellement les mamans poussaient leurs jeunes garçons de rejoindre l'Angleterre.
Vous racontez effectivement ce qu'a été la guerre pour votre père, ce qu'elle a été aussi pour Gainsbourg, puisque vous êtes allé dans la ferme où il a été caché, une ferme qui était située dans la Sarthe, Jane Birkin.
Je suis vraiment contente d'avoir écrit plutôt très bien sur ce morceau-là, de la déception pour Serge que personne ne le reconnaissait. Et c'était une époque où franchement, il n'était pas un héros national comme à la fin ou maintenant. Et que, voilà, cette déception qu'on a toujours de retourner en arrière, de reconnaître la petite chambre où il voyait la petite Thérèse, peut-être elle s'appelait, qui se faisait sa natte, qui était peut-être son premier amour quand il était enfant. Et de dire non, c'est, est-ce que vous voulez déjeuner? Non, on a déjà déjeuné. Enfin, de foutre le camp finalement pour Paris et les enfants. Après cette petite excursion vers le passé qui était finalement une déception.
Vous racontez ce qu'était Gainsbourg. Vous le dites, vous venez de le dire d'ailleurs. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde connaît Birkin et Gainsbourg. À l'époque, Gainsbourg ne vendait pas beaucoup de disques et en fait, son succès a été tardif et peut-être pas sur des chansons qu'on imaginait, comment dirais-je, retenues par la postérité.
En fait, son grand tube, évidemment, je t'aime non plus. Mais après ça, c'était aux armées, etc. Et les chansons comme l'histoire de Melody Nelson sont devenues, par la suite, il m'a filé le disque d'or en disant « Ah, on l'a finalement eu !» Mais très, très tardivement. Et les autres artistes et le monde entier reconnaît Melody Nelson, ce qui est un grand réconfort pour les gens qui écrivent les choses qui marchent pas. Il était populaire par les Carpentiers qu'il adorait et aussi proquement. Et on était aimé par le public, mais on n'était pas des vendeurs du tout. Moi, c'était avec les chansons de séparation qui étaient Baby Alone in Babylon, qui comportaient pour moi les plus belles chansons possible, comme Les Deux Sushis qui fuirent le bonheur, et pour Serge, c'était Aux Armes, etc., qui était disque platine dans la nuit, je crois. Et ça, c'était Philippe Le Richomme, toujours lui, qui a eu l'idée pour Serge de faire du reggae. Sinon, il aurait fait un troisième disque sur un type qui allait avoir une crise cardiaque dans un taxi anglais, et le temps de le taximètre à l'époque, tac, 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 avec le compte, tu sais, qui était sur le compteur, de raconter une autre histoire. Et Philippe est allé, phonogramme, il faisait chier de pas trouver des nouveaux artistes, donc il était toujours fourré chez Serge. Et en étant un guide perpétuel et de veiller sur lui vraiment, eh bien, il est passé, je crois que c'était en dessous le palace, il y avait une discothèque, il attendait l'artiste en question qui n'est pas venu, et il a entendu du reggae pour la première fois, venant de Jamaïque, et Bob Marley, etc. Il a couru au drugstore, il a acheté tout ce qu'il pouvait de Island Records, il est arrivé rue de Verneuil le matin, il a donné ça à Serge et il a dit c'est ça que tu devrais faire. Et ils sont partis en Jamaïque pour faire ce qui était pour Serge le plus grand succès, le plus grand scandale, après je t'aime non plus, c'était de chanter d'après Michel Droit. Serge disait droit comme un Z, qui disait qu'il portait tort à ses co-religionnaires. C'était charmant comme description. Et de même de respirer du Gainsbourg, c'était comme d'avoir un pot d'échappement dans un tunnel, d'être un poison, en autre mot, sur quoi il était quand même tapé dessus dans les colonnes de sur la deuxième page sur Société. Serge était un petit peu ravi de ça. Et c'était un gros carton, en fait. Et après ça, 15 bars et You're Under Arrest et les choses qui personnellement me touchent absolument pas en comparaison de peut-être son période. Il a tellement de périodes roses, bleues, cubiques, surréalistes. C'est peut-être pour ça qu'il est le plus intéressant des artistes, à cause de ces différentes périodes, d'avoir fait la javanaise dans sa jeunesse, dans une période rose, et Melody Nelson dans une période bleue, et puis de continuer comme ça, sur trois générations, avec les inventions de mots et d'écriture, où Chirac et Mitterrand ont dit « Nous avons perdu notre Apollinaire, notre Baudelaire ».
On va écouter un extrait de « Je t'aime, moi non plus » en 1969. « Une chanson très scandaleuse pour l'époque, La Décadence, également une autre chanson. Bref, des chansons qui ont installé le couple Birkin-Gainsbourg. Comment les avez-vous faites, Jane Birkin? À cette époque, vous imaginiez le scandale dans Mooncake Diaries, votre journal que vous publiez. On voit cette manière à la fois de candeur et de perversité qui vous animait lorsque vous songiez à vos séances de pause, à la manière dont le public vous percevait.
Je crois que j'avais pas de temps de penser du tout de tout ça. Il me semble, Je t'aime ou non plus, je l'ai chanté par panique, que sais-je, l'enregistre avec quelqu'un d'autre, parce que j'avais entendu la version sulfureuse avec Bardot qui était divine. Je me rendais bien compte que sais-je allait se mettre dans ce qui me semblait d'être le taille d'une cabine téléphonique avec un bombe sexuelle Mireille D'Arc, exactement, pour lequel il avait déjà écrit quelques chansons. Donc, quand il m'a dit « Est-ce que tu veux le chanter ?», évidemment que j'ai dit oui. J'ai pas vraiment songé à « Est-ce que c'était joli, pas joli ?» Les respirations lourdes, j'avais quand même très bien compris. Et quand j'avais joué chez mes parents, je soulevais l'aiguille pour les respirations lourdes. Donc, maman, elle disait « Oh, what a pretty tune !» Et c'est vrai que la mélodie « Mord la queue », c'est vraiment un beauté. Dès que tu fais « da, 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 da », tout le monde sait où ils étaient quand ils avaient entendu ça pour la première fois. Mais il fallait que mon frère arrive pour laisser l'aiguille pendant toute la chanson pour que mes parents comprennent ce que j'avais fait. Et là, même maintenant, quand je vais en Amérique du Sud ou Buenos Aires, chez les antiquaires, ils disent « Vous êtes ?» Alors, je dis « Oui, oui. » Alors, ils sortent les 33 tours de « Je t'aime non plus » que je signe pour qu'ils gagnent plus d'argent s'ils sont signés. Et c'est quand même extraordinaire que ce chanson-là, pour un taximan anglais, une fois j'avais dit, et c'était sur le BBC, donc j'étais bannie encore une fois pour avoir dit le mot à quatre lettres, parce que j'étais dans un taxi, il a dit « Vous faites quoi, vous ?» Parce qu'évidemment, je ne suis pas connue du tout en Angleterre. Et je me suis dit « Pourquoi je vais dire que je travaille pour Médecins du Monde ou une chose un peu honorable ?» J'ai dit « En fait, je suis une chanteuse, j'ai chanté une chanson avec un homme qui s'appelait Serge Gainsbourg, qui s'appelle « J'étais... » Quand il a entendu « Je t'aime », il a mis les freins à toute allure. Il a dit « Fucking, je t'aime !» Alors, il a dit « I've had fucking five children on that fucking record. Bon, » il a dit « Fuck, un, deux, trois, quatre ou cinq fois. » Et j'ai raconté ça sur le BBC, qui était horrifié. On n'a toujours pas le droit de dire ce mot-là. Mais c'est pour dire que « Serge », il a dit pour Serge. Et même 50 ans après, un vieux taximan anglais est capable d'avoir un accident tellement il était frappé par « je t'aime » parce que c'était pas nécessaire de comprendre le français. Ça a fait le monde entier, banni par le Vatican. Donc, immédiatement, dans leur journal de Vatican, c'est passé en Amérique du Sud. Les gens faisaient du passe-passe avec le disque en dessous les couvertures de Maria Callas. Le BBC a banni le disque aussi. Donc, quand c'est monté dans les charts, ils étaient obligés de jouer l'instrumental de « Je t'aime non plus ». Oh, c'était un joli scandale. Le chef de phonogramme a été mis en prison en Italie. On lui a envoyé des oranges. Et c'était très joyeux.
Mais ce que l'on découvre, je ne sais pas très bien comment vous le dire dans votre journal Jane Birkin, ce journal qui va jusqu'en 1982, c'est que le couple avec Serge Gainsbourg était aussi un couple violent.
Oui.
Vous le décrivez comme vous tapant.
Moi aussi. Je veux dire, c'était des soirées de d'ivronnerie. Très typique de notre époque. Donc, chez Castel, ça finissait généralement vers 3h du matin, ça finissait jamais très très bien, parce que tout le monde était bourré en bas, sur le dance floor, et puis quand on monte, il y avait assez de gens qui avaient envie de voir un bagarre qui vous excitait. Personnellement, ils m'ont excité d'envoyer un tarte à la crème pile sur le visage de pauvre Serge, que j'ai pas raté du tout, et qui faisait que j'étais bien obligée de me jeter dans la scène pour récupérer son estime pour moi, parce que des tartes à la crème, ça se fait pas. Et Et je pense que j'ai essayé d'écraser un clope allumé sur lui. Lui m'a foutu un baffe qui a éclaté un peu l'œil. Bah, je pense que on était dans. Je sais que j'ai renversé du sambouca dans son dos allumé. Je veux dire, je sais pas. Je pense qu'on faisait un tas de conneries. On n'était pas pour autant maintenant de nos jours. Avec les femmes battues, on est hésitante de dire quoi que ça soit, de dire que c'était des histoires de bourrage et de. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais.
Bon, en tout cas, dans votre cas, c'était ça. Ensuite, c'est évidemment impossible de généraliser, mais du coup, on découvre en tout cas un amour là aussi triste, je dis là aussi parce que dans une manière très différente, votre couple avec John Barry, le compositeur, n'a pas été une réussite. Ce n'est évidemment pas la même histoire que vous racontez avec Serge Gainsbourg, mais vous racontez un dénouement qui est un dénouement là aussi face à un homme alcoolique à qui le succès peut-être a joué de mauvais tours.
Peut-être, ou c'est peut-être juste une question de lassitude, de les mêmes plans. Ça va très bien pendant 9, 10, 11 années. Et puis, de partir de Lizé-Matignon à 5 heures du mat, pour veiller qu'il entre pas trop mal. Ils arrivent sur l'horizon, un jeune homme qui vous trouve... intéressant pour vous-même, qu'il a écrit un film qui voudrait que vous jouiez dedans. C'était Jacques Doyon. Et je sais pas, dans un moment de un an, pendant ce temps-là, la vie était gaie parce que j'avais Jacques qui était enchanté par Serge et ses bêtises. Et son charme, et qui me tenait la tête hors de l'eau parce que il était intrigué par moi, ce qui était pour moi une chose un peu incroyable parce que j'avais l'impression que Serge ne m'en voyait plus, mais je pense que il y a des couples mariés où c'est à peu près exactement la même chose. L'exception dans mon cas à moi, je trouve, et peut-être il y a d'autres personnes où ça s'est arrivé, mais c'est quand même le plus doux chose qui a pu arriver dans ma vie amoureuse, c'était que je l'ai pas perdu, permis par Bambou, par Jacques évidemment. Il a continué d'être l'ami qui n'a jamais été quand nous étions ensemble, le parrain de Lou. Ma fille Lou avec Jacques, et qu'il pouvait se trimballer quand il voulait chez moi, à ma plus grande joie, racontant ses blagues, en étant un confident, me demandant mon avis, chose qu'il ne faisait jamais quand j'étais avec lui, et m'écrivant des chansons qu'on connaît, hein, jusqu'à sa mort et à mon défunt, et en étant un ami d'une fidélité, qui me défendait toujours, comme what me. Et ça, c'était une chance folle, parce qu'on avait Charlotte, donc c'était sûr que, de toute façon, on serait vus avec un enfant ensemble. Mais d'avoir eu cette vie privilégiée avec lui, jusqu'à sa mort à lui, c'était une très grande chance.
Mais vous savez qu'on a du mal à croire vos propos parce que un seul de vos mots est en fond et vous décrivez dans tout ce livre comme étant une femme qui n'est pas désirable alors que la France tout entière est persuadée du contraire, Jane Birkin.
Oui, mais ça c'est des choses rigolos de la vie. Je pense que vous demanderez ça à beaucoup de filles qui étaient juste... Moi j'étais juste jolie, hein. J'étais pas belle, j'étais jolie. Mais j'avais complètement oublié, c'est en relisant le journal où j'étais obligée pour la traduction, quand même de relire le tout beaucoup de fois. ça n'arrête pas le crainte de vieillir, le crainte que personne ne serait avec vous dans 10 ans, qu'à 40 ans on est cuit. Parce qu'en fait, je ne tenais que parce que j'étais jolie. J'avais pas de talent, je n'étais pas connue d'avoir eu une nature d'actrice magnifique ou autre chose. C'était juste d'être jolie et d'être peut-être aimée par un de leurs hommes les plus mad, bad and dangerous to know, comme Byron. Voilà, quand on tient à si peu de choses, juste d'être jolie, c'est pas très rassurant finalement. Il vaut mieux avoir un caractère d'oser montrer son vrai visage peut-être que d'être cette poupée que j'étais.
Je crois qu'on pense tous le contraire strictement de ce que vous avez dit, mais c'est votre présentation. En tout cas, voilà, on vous aime, Jane Birkin. Merci d'avoir été là ce matin. Vous restez avec nous, tandis que mes camarades s'installent, Aurélien Bélanger et Mathilde Serrel. Bonjour à tous les deux. Jane Birkin, il faut quand même que je rappelle le titre de votre journal, Munkay Diaries. Munkay, c'est avec un U, mais c'est dans le Birkin.
Mauvais orthographe.
Voilà, et c'est chez Fayard.